Bonsoir. Pour ce qui se lèvera la NRGC, dans son rapport 2014-2015, la CENI affirme ne pas recevoir les fonds destinés à l'organisation des élections. Cette institution dit ne recevoir du gouvernement que des frais de fonctionnement et des rémunérations de son personnel. Sur le plan logistique, la CENI estime que le nombre de véhicules, de motos et de groupes électrogènes qu'elle possède actuellement ne lui permet pas de bien organiser les opérations électorales. Quelle analyse faire de ces rapports? Nous en parlons avec André Alain Atundu Liongo, communicateur de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR en sigle. Bonsoir, monsieur André Alain Atundu Liongo.
Bonsoir.
Franck Diongo, député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement Lumumbiste et Progressiste MLP en sigle. Bonsoir, honorable Franck Diongo.
Bonsoir.
Et Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Il est aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État en sigle. Bonsoir, Jérôme Bonceau.
Bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir à tous les auditeurs de la Radio de la Paix, Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le processus électoral avance à pas de tortue faute de décaissement des fonds estimés à plus d'un milliard de dollars américains. Dans son rapport de 2014-2015, cette institution d'appui à la démocratie dit ne recevoir du gouvernement que des frais de fonctionnement et des rémunérations de son personnel. Ces rapports clarifient quatre sortes de budgets de la CENI, dont deux ne sont pas exécutés par le gouvernement. On écoute ces reportages.
Dans ses rapports, la CENI reconnaît le manque d'exécution de son budget d'investissement et celui des opérations électorales, une responsabilité qui incombe au gouvernement. La CENI précise qu'aucune mise à disposition n'a été effectuée en sa faveur pour l'exercice budgétaire 2014. D'après la clarification de la centrale électorale, en 2014, le Parlement a alloué à la CENI les crédits de 195 milliards 304 millions de francs congolais. Mais selon elle, le gouvernement n'a décaissé que 24% de ce montant. Pour cette année 2015, le budget voté est de plus de 186 milliards 637 millions de francs congolais. Mais d'après les rapports, le gouvernement n'a versé que 22%. La CENI rappelle même qu'en 2013, rien n'a été versé pour financer les opérations électorales en termes d'achat de matériel. Par ailleurs, le rapport de la CENI indique que les fonds opérationnels reçus dans la période de juin 2014 à juin 2015 concernent la stabilisation des cartographies opérationnelles et la fiabilisation du fichier électoral. Sachez que dans son communiqué du 7 octobre 2015, la CENI affirme que les fonds reçus du gouvernement et leur affectation sont retracés en toute transparence dans son rapport annuel.
La CENI plaide pour l'acquisition de nouveaux outils de travail afin d'organiser les élections dans des conditions les meilleures. Dans son rapport de 2014-2015, elle évoque la défectuosité de ses véhicules, motos et groupes électrogènes. À ce jour, le matériel dont dispose la CENI ne lui permet pas d'organiser les opérations électorales. Suivons une fois de plus ce reportage.
Dans ces rapports, il est clair que la CENI n'est pas prête matériellement pour organiser à ce jour les élections en RDC dans de meilleures conditions. Sur 626 véhicules en possession de la CENI, seulement 28 sont en très bon état. Pour la CENI, il y a nécessité de renouveler les chariots automobiles, notamment par le remplacement d'au moins 392 véhicules totalement amortis. Les rapports indiquent que tout au long de ces deux cycles électoraux, la CENI avait acquis 2580 motos, des engins roulants adaptés au site à accès difficile. Mais sur ces lots, 3% seulement des motos sont encore fonctionnelles, c'est-à-dire 86 motos disponibles. Autant pour les véhicules que pour les motos, les besoins de remplacement s'imposent pour assurer une bonne exécution des activités opérationnelles de la CENI. La CENI se plaint également de la défectuosité des groupes électrogènes. Sur 6011 qu'elle possède, 39% des groupes électrogènes sont déclassés. Là aussi, une nouvelle acquisition s'avère absolument nécessaire. Autre difficulté, sur l'ensemble des bâtiments occupés par la CENI, 62% appartiennent au privé et sont pris en location. Les 38% restants sont des bâtiments publics mis à sa disposition. Mais malheureusement, déclare la CENI, ces bâtiments sont dans un état de délabrement très avancé. Cela nécessite des travaux de réhabilitation.
Un dossier réalisé par Askenzik Diatayoro. André Alain Atundu-Liongo, je rappelle que vous êtes communicateur de la majorité présidentielle, et vous êtes président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR en sigle. Comment vous analysez ces rapports de la CENI dans lesquels elle affirme ne pas recevoir les fonds destinés à l'organisation des élections? C'est comme par exemple quand elle révèle qu'en 2014, le Parlement lui avait alloué les crédits de 195 milliards 304 millions de francs congolais, soit plus de 200 millions de dollars, et que le gouvernement n'a décaissé que 24% de ces montants. Comment vous expliquez cela?
De prime abord, je regrette que autour de cette table, il n'y ait aucun membre du gouvernement, ni aucun membre de la CENI, parce que vous vous souviendrez qu'un membre du gouvernement avait déclaré détenir les preuves du financement de la CENI, et maintenant c'est la CENI qui déclare qu'elle n'a rien eu, même si dans son rapport, elle reconnaît quand même 24%, 22% le financement à 43% des élections locales.
Les frais des défonctionnements et des rémunérations du personnel.
Mon impression est la suivante, c'est que le gouvernement fait un effort constant pour rencontrer, disons, contribuer à sa façon, du mieux qu'il peut, à l'élaboration ou à l'exécution du processus électoral. Malheureusement, dans cette aventure, le gouvernement ne devrait pas être seul. Il manque deux acteurs majeurs. Premier, la communauté internationale, qui, au lieu de nous soutenir financièrement aussi, se contente de nous faire de leçons, de nous condamner ou, dans le meilleur des cas, de nous encourager. Deuxièmement, il manque l'apport de la CENI. J'ai comme l'impression que le remplacement de 399 véhicules de groupes électrogènes sont un besoin. C'est un besoin maintenant. Est-ce que la CENI a géré un bon père de famille pour ne pas occasionner des dépenses supplémentaires? Je pense que l'heure n'est pas à la récrimination. Nous devons considérer cela comme un défi national. Eh bien, la CENI devrait aussi faire, en fonction de l'expérience de l'année passée, prévoir que probablement le gouvernement pourrait ne pas dépasser les 24% et donc se comporter en conséquence, faire une sorte de gestion que j'appellerais psychiatrique, c'est-à-dire une gestion réparatrice compte tenu des failles dans le financement, financement incomplet de la part du gouvernement, mais aussi financement, nullité de financement de la part de la communauté internationale, et aussi devait se comporter en bon père de famille pour ne pas occasionner d'autres dépenses pour les biens déjà achetés.
Voilà, vous avez dit que le gouvernement fournit beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, pour la réussite de ces processus électoraux, mais vous déplorez le fait qu'il soit seul. Vous dites que la communauté internationale n'est pas présente. Vous êtes certain que la communauté internationale ne s'est pas impliquée dans ces processus électoraux?
Financièrement, je ne le sens pas. Je n'ai pas entendu la CENI en parler, ni vous dans votre introduction en parler.
Alors, dès lors que le gouvernement a du mal à exécuter son budget, le budget de la CENI, vous pensez que cette communauté internationale peut avoir peut se sentir motivée pour donner sa part à partir du moment où elle se rend compte que, de la part du gouvernement, il y a une sorte de manque de volonté
Non, l'effort de la communauté internationale ne doit pas dépendre du gouvernement. C'est un contrat entre gentlemen. La communauté internationale s'engage, nous allons vous aider, eh bien qu'ils donnent leur part. S'ils avaient donné leur part, peut-être qu'on aurait pu arriver à financer les élections locales et municipales à plus de 50%, n'est-ce pas?
Monsieur l'ambassadeur, l'année 2015, qui est une année électorale avec la publication au début de cette année du calendrier global des élections en RDC, les budgets votés étaient de 1,147,512,093 dollars. Mais d'après les rapports de la CENI, le gouvernement n'a versé que 22% à cette CENI, donc à la centrale électorale. Alors, il y a deux hypothèses selon des experts. soit le gouvernement a décidé délibérément de ne pas financer les élections, soit il avait cette volonté, n'est-ce pas, de financer les élections, mais il était buté contre des difficultés pour réaliser ces budgets. À votre avis, quelle est l'hypothèse plausible?
Je pencherai pour la deuxième hypothèse, parce que...
La volonté y était.
Oui, la volonté
y avait des aléas.
Mais il y a des aléas qui n'ont pas permis au gouvernement. Mais quand même, nous n'avons qu'un budget de 8 milliards. N'est-ce pas? Nous n'avons qu'un budget de 8 milliards. Et plus de 1 milliard et demi, c'est les élections. Et nous comptions pour cela sur l'apport de la communauté internationale, qui n'est pas présent. Donc, c'est tout à fait normal que la CENI puisse se plaindre de moyens insuffisants. Le gouvernement a fait sa part, même si c'est insuffisant, mais c'est quand même une part significative, dans la mesure où, au moins pour les élections municipales et locales, le financement est à hauteur de 43%.
Alors, vous déplorez le fait que le budget n'est pas consistant, vous parlez des 8 milliards. La faute, serait, on peut l'incomber à qui? Et pourquoi on ne fournit pas assez d'efforts pour avoir un budget consistant, à votre avis?
Non, je voudrais...
Est-ce que ce sont les atouts qui manquent? Ce sont les ressources qui manquent?
Non. Vous savez, nous avons ici une autorité budgétaire, en la personne de l'honorable Franz Diongo. La collecte du budget commence par les ministères qui établissent le besoin que le Premier ministre synthétise sous la forme d'un rapport qu'on appelle la loi budgétaire, le projet qu'il soumet à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, en tant qu'autorité budgétaire, peut corriger, peut modifier, peut augmenter, rétrancher besoins et recettes. Et donc, l'effort doit commencer par là. L'effort doit commencer par la collecte des budgets, par une appréciation objective. Cet effort suppose que la CENI s'est comportée aussi en bon père de famille pour tous les biens qu'il a reçus. 329 véhicules, des groupes électrogènes. Alors, est-ce que la CENI s'est comportée en bon père de famille?
Voilà, vous posez la question de savoir si la CENI a bien géré son patrimoine.
Tout à fait.
Et vous savez que pour gérer ce patrimoine, il y a un coût. Il y a un coût. Et à partir du moment où la CENI ne reçoit plus l'argent de la part de l'exécutif, vous pensez qu'elle aurait les moyens d'entretenir ce patrimoine?
Je crois que vous êtes l'avocat de la CENI sans avoir tous les éléments. La CENI doit nous prouver que le déclassement de ces véhicules est la conséquence de l'absence de moyens d'entretien. L'utilisation de véhicules n'est pas au même rythme pendant la campagne électorale que pendant les années creuses. Alors comment justifier? Est-ce que les véhicules destinés à la campagne électorale ne servaient pas à des fins personnelles pendant ces périodes creuses? Il faut se poser des questions. La balle se trouve du côté de la CENI aussi. On n'a pas seulement à creuser pourquoi le gouvernement n'a pas mobilisé suffisamment de ressources. Il faut aussi savoir, honnêtement, pourquoi la CENI occasionne des dépenses supplémentaires à ce niveau. Est-ce qu'elle se comportait en bon père de famille vis-à-vis d'abord des véhicules, ensuite vis-à-vis du peu d'argent qu'elle avait? J'ai parlé de la gestion psychiatrique. Il faut tirer les leçons de ce qu'on a eu pour dire, tiens, comme cette fois-ci, il me donne autant, je peux supposer qu'il ne va pas dépasser la fois prochaine, eh bien je me comporte en conséquence.
Merci Franck Diongo, député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement Lomombiste Progressiste MLP en sigle. Comment vous réagissez à ces rapports de la CENI, les rapports annuels de la CENI?
Merci de nous avoir associés à ce débat. Je salue le président Léa Tondo et M. Jérôme Bosson. La lecture est claire. La prise de conscience est tardive de la CENI est une évidence qui étale à la face du monde l'absence de volonté de M. Kavila à organiser les élections, l'absence de volonté de M. Kabila à quitter le pouvoir, parce que le président de la République est à tête du gouvernement avec son premier ministre. Notez, j'ai l'honneur d'informer au président Tundu que les rapports en question, je l'ai ici sur la table. Donc, voilà les rapports dont vous avez tiré les éléments d'information. Voilà les rapports, je voudrais que vous vous certifiez que voilà les rapports de la CENI, juin 2014 au mai 2015, et qu'il n'y en a pas, et que j'ai eu pour édifier le peuple congolais. Au niveau du budget global, le budget 2014, 2015, 2016, si nous prenons les cycles électoraux complets, c'est 1 milliard 100 millions de dollars. Quand vous prenez les élections...
Le budget pluriannuel.
Exactement. Quand vous prenez les élections municipales, locales et urbaines, provinciales donc, c'est 528 millions de dollars. Et dans ces élections-là, vous avez 1337 circonscriptions, soit 603 communes, 470 secteurs et 264 chefferies. Les drames tragiques de la tragédie. Quand j'analyse le plan de décaissement, dans le plan de décaissement, ce qui a été prévu d'octobre 2014 au 31 mai 2015, c'est 106 millions de dollars. Et le gouvernement de la République, sur un total de 528 millions de dollars, ils n'ont décaissé que 45 millions de dollars, soit 8,5%. Et dans les rapports de la CENI a indiqué où a été destiné cet argent. Ceux qui ont des doutes, je vais mettre à la disposition du public les rapports de la CENI, parce qu'on refuse même de distribuer ces rapports, parce que c'est scandaleux par rapport au gouvernement. Imaginez-vous que depuis que ce rapport a été déposé, ça n'a jamais été débattu au Parlement, parce que c'est une honte pour le gouvernement. C'est un acte, le gouvernement a trahi les peuples congolais. Le gouvernement, les rapports de la CENI prouvent à suffisance que le gouvernement de la République n'a aucune volonté politique d'organiser les élections.
Vous avez suivi l'ambassadeur André Alain Tundu et qui estime que l'hypothèse la plus plausible, c'est que le gouvernement a cette volonté, mais malheureusement, il y avait des aléas qui expliqueraient cette situation que tout le monde semble déplorer aujourd'hui.
Le président Tundu sait que j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne sais pas si le président Tundu croit à ce qu'il dit. Parce qu'en fait, l'immeuble du gouvernement, hôtel du gouvernement, a été construit avec 45 millions de dollars de construction, 45 millions de dollars d'équipement, soit 90 millions de dollars. Cet argent ne figure pas dans le budget de l'État. Les deux avions qu'il vient d'acheter, avec autant de millions de dollars, ça ne figure pas dans le budget de l'État. Les projets de Bukanganuzu, autant de millions de dollars, ça ne figure pas dans le budget de l'État. Le bus Transco, autant de millions de dollars, ça ne figure pas dans le budget de l'État. Je pense qu'il est insultant, et même ça énerve, lorsque le gouvernement dit qu'il n'y a pas de l'argent pour les élections, mais ils ont de l'argent pour autre chose. Quand vous rentrez dans la gestion du budget, vous trouverez qu'il y a un grand dépassement budgétaire dans la gestion et de la primature et du président de la République. Dans le budget qui vient d'être déposé, les rapports de la Cour des comptes, la Cour des comptes a refusé d'accorder la déclaration de conformité au rappel de gestion du budget de l'année passée, tout simplement parce que le gouvernement ne respecte pas la loi budgétaire. Donc ça ne vaut même plus la peine de voter le budget au Congo. Parce que eux, le président de la République et le gouvernement, ils ne respectent pas. C'est le message que le monde doit retenir.
Et donc, lorsque l'ambassadeur Atundu affirme que le gouvernement a cette volonté et qu'il fournit des efforts, n'est-ce pas, pour que ce processus électoral puisse réussir, et que, bon, lui, il déplore le fait que le gouvernement soit seul, et il ne voit pas l'apport de la communauté internationale, comment vous réagissez à ces propos?
Aujourd'hui, par exemple, pour les élections de gouverneur, je vais conclure là-bas, ça coûte 2 millions de dollars. Est-ce que le gouvernement de la République n'a pas 2 millions de dollars pour qu'on nomme le gouverneur? Pardon, pour qu'on organise l'élection de gouverneur? Les assemblées provinciales qui ont déjà obtenu le feu vert de la Cour constitutionnelle, j'ai les rapports que j'ai de mes recherches, minimum 12 assemblées provinciales ont obtenu l'aval de la Cour constitutionnelle.
Mais le gouvernement a interdit aux assemblées provinciales de tenir leurs assemblées, leurs réunions. Cela voudrait dire que le problème n'est pas posé en termes d'argent. Le problème est posé en termes d'un régime finissant, défaillant, qui a échoué et qui se cramponne au pouvoir par la force et qui ne veulent pas partir. On ne peut pas organiser les élections parce que la population va sanctionner.
Oui,
c'est cela la vérité.
En ce qui concerne
et ça énerve la population.
Ce que
je déplore, c'est la prise de conscience tardive. La CENI aurait dû expliquer ces choses comme son rapport n'a pas été débattu à l'Assemblée nationale.
Oui, honorable Diongo.
Donc la CENI est complice de la complication du pays.
Mais vous aussi à l'Assemblée nationale, nous savons que la loi organique de la CENI oblige à celle-ci de présenter son rapport chaque année à la session de mars à l'Assemblée nationale. Cela veut dire que ces faits contenus dans ces rapports sont connus par vous, députés nationaux. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Apparemment, vous êtes resté passif.
Je peux vous dire que ces rapports n'ont jamais été distribués. C'est les membres du FAD, du Front Anti-Dialogue, qui aiment le pays, qui m'ont procuré l'exemplaire que j'ai ici. Donc, on n'a jamais donné aux députés. C'est mon amour pour le pays, mon patriotisme qui a fait que ceux qui défendent le pays, les membres du Front Anti-Dialogue, anti-glissement, qui ne veulent pas les contourner, mais les glissements, qui m'ont remis l'exemplaire que je peux vous donner.
Et à ce qui concerne les difficultés...
Parce qu'on a refusé mais de donner aux députés.
Oui, en ce qui concerne les difficultés de logistique contre lesquelles la CENI est butée, vous avez suivi l'ambassadeur Atundu qui estime qu'il doit y avoir des problèmes de gestion de la part de la CENI par rapport à ses patrimoines.
Laissez-moi vous dire que l'apport de la communauté d'abord internationale, la communauté internationale a besoin d'un calendrier clair et honnête. Par exemple, aujourd'hui, ils ont dit au président de la République, ils ont dit au Premier ministre, donnez-nous la lisibilité des élections présidentielles et les élections nationales en 2016, nous allons contribuer. Ils ne sont pas clairs. Au niveau des éléments logistiques, notez que la CENI avec Malou Malou, ils ont hérité d'abord une dette de 108 millions, 109 millions de dollars.
De la part de qui?
Non, ça dit que la dette héritée par la CENI, Ngoï Moulunda. Alors, s'il y a une mégestion, mais c'est le président Kabila qui a désigné Ngoï Moulunda, son frère, pour qu'il fasse élire président, c'est clair. Alors, si Ngoï Moulunda a mal géré, est-ce qu'on l'a sanctionné?
Merci, honorable Diongo. Merci.
C'est un problème qui croyait prendre et pris.
Merci Jérôme Bonceau, vous êtes président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT en sigle. Vous êtes aussi coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État. Dans vos analyses sur le processus électoral, vous avez souvent relevé les retards que la CENI a toujours connus dans l'exécution de certaines opérations préélectorales, des opérations électorales. Et la raison que vous évoquez souvent, c'est la raison liée au budget. Ne peut-on pas dire que ces rapports vous donnent raison?
Merci, cher ami du matin. Avant de répondre à votre question, je salue M. l'ambassadeur Alain et honorable Franck d'être à leur côté pour débattre sur cette question d'intérêt national. Ces deux correspondances qui sont devant moi, la première est les communiqués de presse numéro 042, CENI 2015, datant du 7 octobre 2014, où la CENI tire la sonnette d'alarme pour dire que je n'ai pas reçu de versements substantiels qui seraient réglement effectués par le gouvernement afin de me permettre l'organisation de consultations électorales dans le délai, c'est-à-dire dans le délai constitutionnel.
Ça, c'est en quelle année?
Ça date du 7 octobre 2015, le communiqué de presse de la CENI. Et la CENI demande une séance de clarification avec le gouvernement. Deux jours après, la CENI envoie une autre correspondance au Premier ministre en date du 9 octobre pour dire voilà comment j'ai utilisé l'argent. Mais dans cette correspondance, la CENI ne marque pas aussi les 92 millions de dollars qu'il avait encaissés ou il a reconnu. Et que cet argent a servi à quoi? Seulement au fonctionnement et aux rémunérations, 92 millions de dollars. C'est là où nous pouvons aussi nous poser la question. Et vous l'avez si bien dit, dans nos précédentes analyses sur la question du processus électoral, nous avons démontré que les trois tentatives de planification de l'organisation des élections ont échoué. La première, c'est celle qu'on appelle feuille de route du 30 janvier 2015, où la CENI a présenté le budget. Cette feuille de route n'a pas pu être exécutée. C'était ça a échoué. Deuxième tentative, le 26 mai 2015, avec la population grandie partielle. La communauté internationale, l'opposition et l'opinion, nous n'avons pas besoin de calendrier partiel, faites-nous sortir les calendriers électoraux globaux. La CENI a sanctionné la troisième tentative, c'est la publication en date du 12 février 2015 du calendrier électoral global avec les 23 contraintes. De toutes ces contraintes, aucune contrainte, presque dans l'ensemble, n'a pas été exécutée. Donc ce calendrier est devenu aussi tragique. Et maintenant la question, ça, parce que le calendrier prévoyait élections provinciales, urbaines et locales, élections le 24 septembre, campagne, jusqu'au 23 octobre, le jour de scrutin le 25 octobre 2015. Nous sommes à 11 jours, on n'en parle pas, ça n'aura pas lieu. Et maintenant le problème c'est quoi? Nous datons avec ce retard qui est caractérisé par le pouce électoral, le cycle électoral 2011-2016, accuse déjà un grand retard. Nous, on croyait que la CENI est en train de préparer les opérations électorales pour respecter la tenue des élections, l'élection présidentielle et législative, ce qui ressort l'exigence constitutionnelle. Mais aujourd'hui, au mois d'octobre, la CENI fait sortir des correspondances où la CENI est incapable d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, faute de moyens. Mais qui donne l'argent à la CENI? Ce sont les partis prenants au poste électoral. Qui est parti prenant au poste électoral? C'est le gouvernement de la République. Ce sont les partenaires techniques et financiers, la communauté internationale. C'est nous, la population aussi, qui devons contribuer pour nous approprier du poste électoral. C'est l'opposition politique. C'est la majorité au pouvoir. Et aucune partie prenante, en montant sur le tableau ici, je ne vois même pas la contribution aussi des autres. Ça dit des partenaires techniques et financiers. Personne n'a donné d'argent. Mais nous sommes tous unanimes pour demander l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Vous croyez, cher ami, quand nous, à la CENI, vous dit je n'ai pas du matériel, parce que l'élection présidentielle de 2016, dans la date qui est prévue par la CENI dans son calendrier, qui est déjà irréaliste et irréalisable. La CENI a dit que jour du scrutin présidentiel, le 27 novembre 2016. Mais nous allons faire ces élections-là avec la problématique du fichier électoral, qui est, selon la CENI, inadapté, selon la CENI, qui ne contient pas toutes les données démographiques, selon l'opinion, fichier électoral corrompu. Mais il y a la problématique de nouveaux majeurs. Nous allons les intégrer dans quel fichier corrompu? Ça va donner liste électorale corrompue. La fiabilité de la réussite des élections, c'est la fiabilité de liste électorale. Liste électorale non fiable, ça va déboucher sur la fraude massive. Maintenant, nous devons lever l'option politique. C'est ce que j'ai fait dans mon étude que j'ai publiée en date du 1er octobre. La problématique du procès électoral en RDC, point de vue technique d'un expert. J'ai démontré, il faut que la classe politique, toutes tendances confondues, lève l'option de quel type de fichier électoral allons-nous faire. Parce que nous devons intégrer le nouveau majeur, nous devons intégrer les congrès de la diaspora. Ça nous prendra combien de temps? Moi j'avais mis, en tenant compte de tous les paramètres dans le fait de monter un nouveau fichier électoral, ça nous prendra 22 mois. Mais 22 mois, croyant que la CENI avait du matériel. Mais aujourd'hui, la CENI a dit qu'il n'a pas du matériel. Quand vous prenez, cher ami, on a démontré que la CENI dispose que 7 véhicules. Or, nous avons 26 provinces. Nous avons 145 territoires. 97 villes. 470 secteurs subdivisés en 3831 groupements. 264 chefferies subdivisées en 1804 groupements. 603 communes subdivisées en 4585 quartiers et 88 264 villages. Les 8 véhicules, est-ce qu'on va les déployer là-bas? Même s'il faut faire l'enrôlement pour le fichier électoral, est-ce que nous allons nous en sortir? Maintenant, ça me réconforte, moi, pour dire la problématique même de l'enrôlement de la diaspora. Il faut le regrouper dans des zones Amérique, zone Asie, zone Afrique et zone Europe, pour mettre au moins 8 mois. Le fichier va nous prendre 22 mois. Mais aujourd'hui, il faut dire avec courage, parce que tout le monde a peur, tout le monde a honte de dire que les élections ne vont pas se tenir dans le délai constitutionnel. Mais au regard de correspondances, au regard des aléas techniques, il est clairement établi qu'il sera impossible d'organiser l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. À ce moment-là, toutes les parties prenantes ici sont responsables. La communauté internationale est responsable. Partenaires intégrés et financiers est responsable. Le gouvernement est responsable. L'opposition est responsable. Majorité est responsable. Et nous, société civile, responsable. Nous ne devons pas nous montrer de doigts. Maintenant, comment trouver une solution? Nous devons trouver une solution en nous investissant dans l'émergence.
Merci.
Du consensus électoral, fruit du dialogue politique.
Merci, monsieur André Alain Tondou. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu.
Amos, d'ici moi, j'appelle à partir de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. La révélation que vient de faire la CENI par rapport aux difficultés financières et matérielles qu'elle a lui empêcha de bien faire son travail est une preuve d'état que la majorité présidentielle n'est pas prête pour les élections et chercha à tout prix à créer du flou, voire du retard dans le processus électoral, afin d'aboutir au glissement que le peuple congolais ne veut pas entendre de ses oreilles. Toutefois, le retard coupable avec lequel la CENI a dénoncé fait penser à une complicité entre le pouvoir en place et cette institution d'appui à la démocratie en RDC, mettant ainsi en cause son indépendance.
Oui, l'honorable Diongo a si relevé cet aspect des choses. Oui,
Oui. Je pense que lorsqu'on discute des affaires de l'État, il faut parfois se passer de beaucoup d'émotions. Monsieur Bonsou, qui est un expert, vient de développer avec force l'argument qu'il est impossible d'organiser les élections à temps. Deux, que tout le monde est responsable pour n'avoir pas fourni les moyens nécessaires. Le gouvernement, pas suffisamment. Les partenaires techniques, pas du tout. Alors, de là à dire que c'est la majorité qui est responsable, d'abord je fais remarquer à ce citoyen que la majorité n'organise pas les élections.
Mais c'est elle donne les moyens.
Non, la majorité
ne donne pas des moyens
à la CENI. C'est le gouvernement de la République qui donne les moyens à la CENI. Donc il faudrait éviter de faire de la confusion. Si ce citoyen veut éclairer la religion des autres citoyens sur la problématique objective de l'organisation des élections, il doit éviter de faire la confusion entre le gouvernement de la République, la majorité. N'est-ce pas? Donc, moi, je pense que la bonne foi du gouvernement est là. Elle a fait. Il a fait un effort constant, je vous l'ai dit, 24% l'année passée, 22% cette année. On peut espérer que d'ici la fin, il pourra atteindre 24-25%. Et donc, nous devons plutôt considérer que c'est un défi. Et que je pense, honnêtement, que continuer à organiser des débats autour de la responsabilité du gouvernement de ne pas tenir, de n'avoir pas donné autant d'argent, c'est faire la politique d'autruche. Il y a des raisons objectives. Nous sommes tous d'accord qu'il faut enrôler les nouveaux majeurs. Nous sommes tous d'accord qu'il faut nettoyer le fichier électoral. L'enrôlement des nouveaux majeurs, le nettoyage du fichier électoral ne se trouve pas dans un coffre-fort. Il ne suffit pas d'ouvrir pour changer les cartes. Non, il faut parcourir l'ensemble de la République. Un spécialiste nous a dit ici, c'était 22 mois dans la meilleure des hypothèses. Or, il s'avère que la CENI a des difficultés matérielles qui n'étaient pas prévues. Donc, il faut penser à peut-être 3 ans, 4 ans, objectivement. Et pour cela, nous devons nous réunir. Le dialogue est fait pour ça. Au lieu de nous accuser.
Vous avez dit que la bonne foi du gouvernement est là. Vous avez suivi l'honorable Diongo qui a évoqué un certain nombre d'effets ici. Il parle de l'immeuble du gouvernement, il parle de Bukanga Lonzo et c'est des fonds qui ont été utilisés qui n'étaient pas contenus, n'est-ce pas, dans les budgets de l'État. Et il ne comprend pas que l'État puisse dire aujourd'hui qu'il n'a pas assez de moyens pour organiser ces élections.
Monsieur l'honorable Diongo n'est pas seulement autorité budgétaire, mais c'est un homme d'État. Il sait que vous pouvez manquer de l'argent pour organiser les élections et que vous ayez des élections, de l'argent pour acheter des avions et même construire Bukanga Lonzo parce que les sources de financement ne sont pas les mêmes. Pour monter Bukangalonzo, vous vous adressez à des partenaires différents et différemment disposés.
Merci.
Donc ne faisons pas de la confusion. Ce n'est pas parce qu'on a construit l'immeuble du gouvernement que c'est la preuve que le gouvernement ne veut pas payer. La source de financement est différente, n'est-ce pas? Tout comme Bukangalonzo, tout comme les avions.
Et vous ne pensez pas que si les élections étaient une priorité, le gouvernement se serait investi pour mobiliser les fonds afin de financer ces élections?
Et quand le gouvernement met 24%, ce n'est pas un effort? Je vous dis que c'est un effort constant.
Merci.
Peut-être insuffisant, mais l'effort est là et traduit la volonté. Et le fait qu'on ait financé à 43% les élections municipales, ça montre la disposition du gouvernement. S'il avait plus de moyens, il aurait pu le faire.
Merci Franck Diongo. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient aussi de Bukavu, au sud de Kivu.
Robert Mohamed de Bukavu, au sud de Kivu. Apparemment, ce rapport de la CENI est fondé. Il vient pour se faire corroborer et démontrer une fois de plus que loin reste encore la volonté politique réelle du gouvernement d'organiser les élections dans les délais constitutionnels et même en dehors de ces délais. Toutefois, il y a lieu de se demander où en est déjà arrivée l'autorité budgétaire pour doter le gouvernement d'un instrument qui puisse lui permettre de mobiliser les fonds nécessaires à l'organisation des élections en RDC.
Oui, honorable Franck Diongo.
D'accord. Je voudrais saluer la lucidité et la pertinence des deux questions, des premières questions. La question m'a adressée directement. Chaque année, l'État congolais, à travers le Parlement, a une rubrique pour l'organisation des élections. Donc, ce ne sont pas des dépenses imprévues. C'est quand même une honte. C'est insultant même qu'un gouvernement, pour des élections à la fin de la mandature, pendant 5 ans, pendant qu'on prévoit, il y a des prévisions chaque année. Je vous ai donné un exemple. C'est 1,5 milliard, c'est pluriannuel. Si chaque année on prévoit, mais où va l'argent? Qui ne va pas donner l'argent?
Mais déjà, le budget dans sa globalité n'est pas consistant. Et il y a des experts qui fustigent l'attitude des parlementaires, vous qui êtes autorité budgétaire, du fait que vous ne faites rien pour étoffer ce budget.
Non, notez monsieur, quand je prends les élections des députés provinciaux et élections municipales, les 528 millions de dollars prévus figurent dans le budget et le président de la République a promulgué. C'est une loi. Lorsque la loi est votée, l'Assemblée fixe les chiffres, le président de la République promulgue. Ce n'est plus l'affaire du président de l'Assemblée, c'est le gouvernement qui doit exécuter. Ça, c'est le premier élément. Donc, il n'y a aucune responsabilité par rapport à l'exécution. Si on n'a rien prévu, est-ce qu'on a exécuté ce qui a été prévu? Ce qui a été prévu n'a pas été exécuté. C'est l'absence de volonté politique. Une petite mise au poste, s'il vous plaît. J'ai suivi le président Atundu, je dois corriger, c'est pas 43% président Atundu, c'est 45 millions sur 528 millions.
C'est écrit.
J'ai les documents ici. Est-ce que monsieur pouvez voir rapport. Sur les 528 millions de dollars, c'est 8%, soit 45 millions. Est-ce que monsieur le journaliste, tu peux confirmer ça?
Oui, j'ai vu.
C'est cela.
Ouais.
J'ai les documents ici signés par la.
Honorable Diongo, au-delà de tout ça, honorable Diongo, monsieur Atundu,
à hauteur de 43%.
Monsieur Atundu, honorable.
Moi j'ai les documents. Vous avez un papier.
Honorable
Diongo, les documents signés par la CENI.
Honorable Diongo, les problèmes est posé.
Attendez.
S'il vous plaît. Honorable Diongo.
C'est 8%.
Honorable Diongo.
C'est 45%.
Honorable Diongo, le problème est posé, le problème est réel.
Donc, je voudrais que le Congolais.
Ce qui importe pour le moment,
528.
Ce qui importe pour le moment, c'est.
Alors.
De savoir comment faire pour sauver le processus électoral. À votre avis, faut-il faire quoi pour sauver le processus électoral?
Pour sauver le processus électoral. Contrairement à ce que M. Jérôme Bosso dit, je suis très déçu de son plaidoyer pour la violation de la Constitution. Je suis très désolé que le président Bosso, avec qui j'ai beaucoup de respect, mais décourage aujourd'hui et décourage l'opinion congolaise qui croit à son expertise.
Vous proposez quoi pour sauver
le processus
électoral?
Aujourd'hui, excusez-moi monsieur, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de processus électoral. Le président Kabila doit dire aux Congolais qu'il organise les élections. Le gouvernement doit impérativement donner de l'argent. On ne peut pas insulter les Congolais. Vous ne voulez pas donner les élections et la CENI, aujourd'hui, là, c'est de communiquer pour dire qu'il n'y a pas de l'argent.
Merci.
Et ce rapport a été caché depuis le mois de mars. Jusqu'à aujourd'hui, il ne va pas donner aux députés.
Merci, Jérôme Bosso. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kisangani. Jérôme Bosso.
Moi, c'est Pepe Lisungi Botomoito. Je vous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Tchopo. Avec de tels secrets, l'OTAN avalé politiquement par les membres du bureau de la CENI, qui semble être comme un tonnerre aux oreilles des Congolais, pouvons-nous dire que c'est le réveil des membres du bureau de la CENI pour montrer à la face du monde qu'ils sont accusés pour rien alors que le blocage se trouve au niveau du gouvernement, ou c'est la réforme des stratégies pour les glissements? Et si cela est vrai, pourquoi tous n'ont pas suivi l'esprit de Malu Malu qui, à mon avis, a démissionné et non à cause de sa maladie, mais plutôt à cause de toutes ces réalités, car sa démission est venue après la publication du dit rapport. Et au stade actuel, est-il encore important de croire à ce bureau de la CENI?
Oui, Jérôme Bosso.
Merci, cher ami Lusungi de Kisangani. Vous avez parlé que la CENI se réveille tard. Non, la CENI, je pense qu'il fait ce qu'on appelle la transparence. Une gouvernance basée sur la transparence quand il y a des informations, parce que le processus électoral congolais nous appartient, nous tous. C'est pourquoi la CENI a l'obligation de nous donner ce genre d'informations qui nous réconfortent dans nos réflexions et dans nos analyses.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le processus électoral?
Mais le processus électoral est dans l'impasse total. Le processus électoral est au bord de la dérive. Que faire? Quel mécanisme? Quel miracle allons-nous faire? Il n'y a pas de moyens financiers. Il n'y en a pas. Que faire? Est-ce qu'il faut encore se tirer là-dessus? Non. La capacité d'une nation, la capacité des acteurs politiques d'un pays, c'est de trouver la solution à un problème posé. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous indexer qui a tort, qui a raison, mais nous devons trouver la solution.
La solution,
même, je le dis, je le répète, la solution se trouverait dans l'émergence du consensus politique. Ce consensus qui est fruit du dialogue. Parce qu'aujourd'hui, si nous refusons le dialogue, demain, nous allons nous confronter, et après tout, on va se mettre autour d'une table après avoir sacrifié les vies humaines. Parce que les élections
en politique, l'honorable Diongo ne semblait pas être d'accord avec cette solution.
Mais il finira par être d'accord avec moi. Parce que le dialogue est incontournable. Parce que même si on va arriver à la date où la CENI a dit l'élection présidentielle, prestation du serment du président de la République, le 20 décembre 2016. Mais s'il arrivait qu'on n'a rien fait, l'argent n'est pas disponibilisé, on ne va pas assister à cela. Il y aura confrontation.
Et de conclusion,
il y aura des problèmes.
La conclusion.
Moi, nous disons que les élections se préparent en amont et en aval. Il ne faut pas attendre janvier, février de l'année prochaine pour prétendre organiser les élections présidentielles et législatives. Faute de quoi, ça sera que les élections chaotiques comme nous avons connu en 2011. D'où, nous avons tout intérêt à nous réunir, à nous réfléchir autour d'un dialogue politique.
Ambassadeur Atundu, qu'est-ce qu'il faut pour sauver le processus électoral? Ça sera aussi votre conclusion. Jérôme Bonso parle d'un consensus politique.
Pour sauver le processus électoral, je crois qu'il faut répondre au dialogue que le président de la République, fort de son statut de garant de la nation et du bon fonctionnement de la démocratie, a appelé.
L'opposition semble pas d'accord avec cette
occasion. Il y a des raisons objectives. Aujourd'hui, les débats n'est plus celui-ci n'a pas fait cela, celui-ci n'a pas fait ça. Nous avons un défi devant nous. Il est impossible, un expert vient de nous dire, d'organiser les élections en novembre. Tout au plus dans 22 mois. Et d'après les éléments...
Vous pensez que les dispositions avaient été prises en amont pour que ces élections soient organisées dans les délais constitutionnels?
Il n'y a pas de raison de douter de la bonne foi de la CENI et du gouvernement. Mais seulement, nous avons aujourd'hui une difficulté. Nous devons réagir. Voilà, nous avons 22 mois de retard. Qu'est-ce que nous allons faire pendant ces 22 mois? Il ne s'agit pas de dire que glissement. Le glissement n'est rien. Ça n'a pas de contenu juridique.
Merci. Honorable Franck Diongo, votre conclusion, il faut un dialogue?
Ma conclusion, d'abord, ma qualité du président du Front Anti-Dialogue, le PP congolais n'en a pas besoin. Et je félicite le président Tshisekedi avec l'UDPS qui vient de quitter les dialogues.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver
le processus? Ce qu'il faut sauver, c'est le président Kabila, qui doit garantir à les Congolais de sa volonté de quitter le pouvoir, de sa volonté d'organiser les élections.
Or, il ne peut quitter le pouvoir que par la voie des élections.
Messieurs, l'interprétation erronée qui dit que le président va rester en fonction en attendant que l'autre soit élu, il n'aura droit qu'à 3 mois. Donc, au-delà de la mandature, nous n'accepterons pas à 3 mois, Franck Diongo,
je n'accepterai pas le président Kabila soit présent pour n'avoir pas voulu organiser les élections.
Merci.
Et les Congolais n'accepteront pas ni les glissements, ni le contournement.
Merci,
et les
c'est la fin de cette émission. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Diédé Mbaza, qui est à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Alain Irung et Béry Franklin Luchaka, sous la supervision de Félix Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio 4.